je vais essayer de vous parler de ce que l'on appelle les agents biotiques opportunistes. Ce sont donc les bioagresseurs qui vont profiter, généralement d'un état de faiblesse, survenant sur l'arbre, pour parvenir à s'installer. C'est ce que l'on appelle classiquement les parasites d'équilibre, ou les ravageurs secondaires, ou les parasites et les ravageurs de faiblesse, sont les termes que l'on trouve généralement dans la littérature. Mais parmi ces agents opportunistes, on va aussi rencontrer un petit groupe qui nous intéresse particulièrement, tout particulièrement nous, dans le domaine ornemental, c'est le groupe des champignons lénivores. Ces champignons lénivores vont profiter d'une opportunité pour s'installer dans l'arbre. Cette opportunité, ce seront les plaies, et généralement des plaies de grande taille. Donc on va rejoindre la petite diapositive de présentation de Thierry tout à l'heure, en évoquant la problématique de l'élagage et des tailles sévères occasionnées sur les chênes. Voilà, donc premier paragraphe, les agents biotiques opportunistes que l'on va détailler. Deuxième paragraphe, nous allons travailler cette fois-ci sur les parasites et les ravageurs primaires. Donc ce sont tous les organismes, tous les bioagresseurs répertoriés aujourd'hui et qui vont être capables de s'installer sur des chênes en bon état physiologique, ou du moins en bon état physiologique apparent. Et le troisième petit paragraphe est peut-être celui qui va le plus vous intéresser, parce que c'est dans ce groupe-là que l'on va trouver les problèmes parasitaires les plus problématiques. C'est le grand domaine, c'est le domaine des maladies émergentes. Et effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui nous inquiètent. Il y a des maladies émergentes qui sont en cours d'installation et en cours de développement sur les chênes, que ce soit les chênes ornementaux ou les chênes forestiers. Mais nous avons aussi toute une série d'inquiétudes. Ce sont tous les risques d'introduction d'espèces exotiques, de maladies exotiques, et certaines sont arrivées depuis peu de temps et nous inquiètent tout particulièrement. Alors je vais moi aussi faire la passerelle avec le milieu forestier, même si ce n'est absolument pas ma spécialité, mais en foresterie nous avons une littérature très très abondante sur le dépérissement du chêne. Cette littérature est disponible depuis la fin des années 70, comme cela a été précisé tout à l'heure. C'est notamment à la suite des grandes vagues de dépérissement constatées dans les parcelles forestières de chênes de cette époque, et bien que de gros travaux ont été mis en œuvre et nous ont permis de comprendre un petit peu mieux ces mécanismes et ces phénomènes de dépérissement qui affectaient nos chênes. Premier point important, ce qui a déjà été dit précédemment, et bien c'est que ce dépérissement impacte surtout, pour ne pas dire exclusivement, mais presque exclusivement, le chêne pédonculé, donc une essence qui a ses exigences stationnelles, très très marquées, et notamment en termes de profondeur des sols et d'humidité des sols en période estivale. Mais également, comme je vous le disais, ces dépérissements, sont des dépérissements qui étaient peu connus auparavant et qui se sont développés à partir des années 80, fin des années 70, et qui ont été attribués en grande partie aux grandes vagues de sécheresse de la fin des années 70, avec l'année 76, qui a marqué tout particulièrement tous les esprits. Alors, ces travaux qui ont été réalisés par les scientifiques ont permis de mettre clairement en évidence que le dépérissement du chêne pédonculé, constaté lors de ces années, n'était pas lié à un seul facteur, mais c'était lié à une multitude de facteurs qui s'enchaînaient les uns les autres, et ce qui nous a permis de définir à cette époque une notion essentielle en phytopathologie, qui est la notion dite de la spirale du déclin, qui a été clairement mise en évidence à cette époque. Et vous avez ici la spirale du déclin qui a été identifiée sur le chêne pédonculé, dans laquelle on voit bien plusieurs facteurs qui vont agir, qui vont se succéder dans le temps. Et parmi ces facteurs, nous pouvons identifier tout d'abord ce qu'on appelle les facteurs prédisposants. Ce sont des facteurs qui sont présents de façon permanente, ce sont des facteurs qui sont chroniques qui agissent sur l'état physiologique de l'arbre et qui les mettent, ces arbres, dans un état d'une certaine fragilité, d'un certain affaiblissement. Sur ces arbres qui subissent l'effet de facteurs prédisposants, comme ici pour le chêne pédonculé, nous voyons notamment un facteur très important qui est la sécheresse des sols en été, et bien sur ces arbres surviennent ce que l'on appelle les facteurs déclenchants. Ce sont des facteurs qui agissent brutalement et qui vont faire basculer l'arbre véritablement dans un état maladif, avec une expression de symptômes extrêmement marquée. Ça sera là un épisode de sécheresse très soutenu. Ça peut être le développement de certaines pathologies, ça peut être le développement de certaines épidémies phytosanitaires qui vont maintenant faire vraiment basculer l'arbre dans un état maladif. L'arbre va exprimer des symptômes marqués et sur ces arbres qui ont subi l'effet de ces facteurs déclenchants vont enfin s'installer ce que l'on appelle des facteurs aggravants. Et ces facteurs aggravants vont entraîner l'arbre définitivement vers une mort proche. Ce qui a été très très important dans ces études, ça a été de décortiquer toute cette spirale du déclin et de bien mettre en évidence que s'il n'y avait pas eu ces fameux facteurs prédisposants, peut-être que la sécheresse brutale de 1976 n'aurait pas eu le même impact et aurait beaucoup moins endommagé nos chênes. Cette notion de spirale du déclin, on l'utilise couramment maintenant pour décrire de nombreux dépérissements, que ce soit des dépérissements forestiers ou même des dépérissements que l'on voit rencontrer dans des situations beaucoup plus ornementales. Et pour rebondir encore sur les travaux forestiers, je suis très intéressé et j'ai été très séduit par cette fameuse méthode développée par Christophe Drénoux qui vient d'être évoquée, qui est la méthode ARCHI, qui est une méthode qui permet non seulement de caractériser un état de dépérissement sur un chêne pédonculé, mais en plus cette méthode va nous permettre de prédire l'évolution de l'arbre face au stress qu'il a subi. Cette méthode, qui est entièrement basée sur la lecture de l'architecture de l'arbre, est présentée dans un numéro de Forêt Entreprise, qui est le numéro 200, qui est le septembre 2011. Pour ceux qui sont intéressés, je vous engage vivement à vous rapprocher de cette publication. Alors cette méthode nous évoque bien les différents parcours que l'arbre peut avoir face à une situation de stress. Un arbre qui est en état de stress peut s'engager vers un dépérissement irréversible si ce stress est très prononcé, mais également si les facteurs aggravants s'installent sur cet arbre-là, qui le font basculer vers une mort certaine. Mais l'arbre a d'autres possibilités. En réaction à ce stress, l'arbre peut rebondir et se régénérer et restaurer sa cime assez rapidement. C'est ce qu'on appelle l'arbre résilient. Mais une situation intermédiaire existe également. Donc l'arbre ne va pas être capable de reconstituer sa cime à l'identique. Mais par contre, il va être capable de reconstituer une cime à un second niveau. C'est ce que l'on va appeler une descente de cime avec reconstitution d'une cime un petit peu plus basse. Alors bien entendu, pour le forestier, pour le gestionnaire, l'arbre qui va présenter un avenir certain pour lui est exclusivement l'arbre résilient. L'arbre qui est en descente de cime va générer de nombreux défauts dans le bois. L'arbre en descente de cime est un arbre qui ne va pas présenter une garantie d'avenir suffisante. Ainsi, dans cette méthode dite méthode ARCHI, c'est la lecture de l'architecture de l'arbre qui va nous permettre de définir le groupe dans lequel l'arbre va devoir être positionné. Vous avez donc le type R, archi-R, qui est l'arbre résilient. Vous voyez, le haut pied de l'arbre se couvre de rejets orthotropes. Une hiérarchisation s'installe au niveau de ces rejets. L'arbre va très vite être capable de revenir à un état sain. Deuxième groupe, qui est le groupe archi-D, donc l'arbre qui exprime une descente de cime marquée, vous voyez les rejets s'installent à un niveau inférieur dans le houppier de l'arbre, et ces rejets sont plutôt des rejets plagiotropes et non orthotropes comme nous avons vu sur le type précédent. Et enfin le troisième type, qui est le type I, archi-I, dépérissement irréversible, où là les rejets sont très diffus, très éparpillés, de très faible vigueur, et ces rejets ont plutôt une attitude, un comportement agéotrope, c'est-à-dire plutôt descendant, à port descendant, qui donc nous exprime très nettement le faible avenir de cet arbre-là et assurément un dépérissement irréversible dans lequel l'arbre se trouve aujourd'hui. Donc cette lecture architecturale qui est très rapide, on dit qu'en 2-3 minutes, un œil averti va être capable de lire le type architectural dans lequel se trouve l'arbre en ce moment, eh bien, va permettre bien entendu de tout de suite savoir si l'arbre va présenter de l'avenir, et ça peut nous apporter une indication essentielle lors d'un marquage en vue d'une éclaircie ou lors du choix d'arbres d'avenir au sein d'un peuplement. Maintenant, on va quitter le domaine forestier, qui n'est pas du tout mon domaine, pour nous intéresser un petit peu plus à l'arbre d'ornement et notamment à nos vieux arbres patrimoniaux. Je vais vous évoquer quelques exemples autour du chêne pédonculé, qui est une essence qui est très, très pénalisée actuellement, et quelques exemples qui nous viennent du sud-ouest, où le chêne pédonculé est très présent, notamment dans l'extrême sud-ouest. Vous avez ici le cas d'un arbre, si on lui avait fait une annotation dans les années, à la fin du 19e au début du 20e siècle, et bien cet arbre-là, on l'aurait classé dans le type résilient sans aucune difficulté. On voit tous ces rejets orthotropes très verticaux, développés dans le pied de cet arbre. Cet arbre qui a présenté une multitude d'agressions, et notamment une agression anthropique, qui est la taille, puisqu'il a été abondamment taillé. Donc un arbre qui était typiquement dans le type archi-résilient. Quelques décennies plus tard, dans les années 50, eh bien, on voit que cet arbre a réorganisé complètement son houppier. L'arbre est reparti, a été tout à fait capable de surmonter les stress subis, qui étaient probablement à l'époque essentiellement des stress liés à la taille, à l'intervention humaine. Et puis, les choses se sont compliquées dans les années 80, où on a vu apparaître un nouvel état de stress sur cet arbre-là, avec l'apparition d'une descente de cime. Donc on change de type architectural ici pour cet arbre-là, mais quand même avec une réaction assez intéressante, avec de nombreux rejets, réitérats gourmands qui se mettent en place en partie basse du houppier, mais qui sont quand même relativement orthotropes ou plagiotropes, donc qui nous donnent quand même un certain avenir. Et malheureusement, cet arbre a été revu il y a quelques temps, et le déclin, cet arbre a été envahi par un phénomène de déclin irréversible. Alors cette succession de diapositives nous montre plusieurs types d'éléments. Le premier, c'est qu'un arbre au cours de sa vie, eh bien, peut faire des allers-retours entre des états de dépérissement et des états de restauration. Donc il n'y a a priori pas il y a toujours la possibilité chez le chêne de reconstituer, de restaurer sa cime, à condition qu'effectivement les agresseurs ne soient pas trop virulents. Mais ça nous montre aussi une deuxième chose, c'est que dans ce cas-là bien précis, eh bien, tout s'est aggravé chez cet arbre-là lorsque des facteurs secondaires, des agresseurs secondaires, sont venus s'installer dans ces tissus, et c'est notamment ici le cas d'insectes xylophages secondaires qui ont pris place dans son tronc, dans ses charpentières, et qui ont fait que cet arbre avait basculé dans un état de dépérissement totalement, entièrement irréversible. Voilà, donc ici, cette petite illustration eh bien, nous montre cette spirale du déclin sur un chêne d'ornement qui pourtant avait fait l'objet de soins assez poussés, assez soignés. Mais malheureusement, quand les organismes secondaires, les facteurs aggravants ont pris place, eh bien, l'arbre a basculé irrémédiablement dans le dépérissement, et maintenant il n'est plus possible de le sauver. Un autre cas, qui est un cas intermédiaire entre la forêt et l'ornement, qui est une structure paysagère très importante dans notre sud-ouest et dans les Landes, tout particulièrement, qui sont les érios. Les érios, c'est des plantations de chênes qui étaient réalisées autour des villages ou des petits hameaux. Et ces plantations de chêne avaient une vocation importante au niveau de la nourriture des cochons. On en parlait dans d'autres régions du monde. Et ces chênes, qui étaient des chênes pédonculés, eh bien, se sont très très bien comportés, généralement jusqu'à la première moitié du XXe siècle, et malheureusement aujourd'hui, on est confronté à un patrimoine arboré très âgé, mais extrêmement dépérissant. Ce dépérissement est lié à deux grands phénomènes. Le premier phénomène, c'est le phénomène de la foresterie. La foresterie essentiellement axée sur le pin dans les Landes, qui a abouti à des modifications du niveau de l'eau dans les sols, liées à ces énormes fossés qui ont été creusés et qui ont beaucoup pénalisé, pour drainer toutes les Landes, qui ont beaucoup pénalisé le chêne pédonculé. C'est le premier phénomène. Et puis le deuxième phénomène, comme on le voit ici dans ce site, eh bien c'est l'aménagement. Donc c'est la responsabilité de l'homme dans les aménagements urbains ou périurbains. Les parkings, les routes qui ont été mises en place, eh bien, ont là encore constitué des facteurs parfois prédisposants, d'autres fois des facteurs déclenchants, et des facteurs déclenchants de très très grande intensité. On retrouve ceci dans de multiples situations. Les chênes sont gagnés par l'urbanisation. Tout cela part généralement d'un bon sentiment, c'est-à-dire d'un sentiment initial de conservation des arbres. Mais malheureusement, on conserve les arbres sans respecter leur milieu, sans respecter leur environnement proche. Et les chênes, notamment lorsqu'ils avancent en âge, deviennent extrêmement vulnérables à toutes ces modifications stationnelles, toutes ces ablations de racines, tous ces endommagements de leur tissu, qui vont effectivement les faire basculer parfois dans des morts très très rapides. Et puis, il n'y a pas forcément qu'avec des tractopelles, des bulldozers, des pelles mécaniques que l'on fait des dégâts aux arbres. Il y a tout simplement la surfréquentation. Surfréquentation par le public qui amène à une compaction des sols, à une destruction de l'environnement proche, à une modification des conditions de vie racinaires qui peuvent effectivement, là encore, faire basculer l'arbre dans un état de dépérissement totalement irréversible. Ici, on est bien dans un type archi-I sur ce chêne vert et il n'y a plus aucun espoir de le voir restaurer sa cime un jour. Et puis, l'homme pensant bien faire, parfois, eh bien, il se met à jardiner autour des vieux chênes. Il l'aménage, il fait des pelouses soignées, il fertilise. J'entendais parler tout à l'heure de fertilisation azotée. C'est effectivement une véritable catastrophe sur un chêne installé. La mise en place de réseaux d'arrosage, donc on pense toujours bien faire, tout cela part d'un bon sentiment. Mais on modifie tellement le milieu autour de l'arbre, on modifie tellement ses conditions de vie racinaires et probablement les conditions de vie des champignons accompagnateurs du chêne, qui sont les mycorhizes, et bien que ces arbres se trouvent en grande difficulté maintenant quand ils sont intégrés dans des aménagements paysagers de ce type. Donc on évoquait ces facteurs déclenchants liés à l'activité humaine, liés à ces facteurs anthropiques extrêmement mutilants et capables d'endommager fortement les arbres. Mais c'est à la suite de ces facteurs déclenchants que vont s'installer des facteurs redoutables, qui sont les facteurs aggravants, qui eux vont rendre le dépérissement totalement irréversible. Il y a plusieurs agents que l'on qualifie d'agents opportunistes, connus et identifiés sur le chêne. Je vais juste vous en présenter quelques spécimens, quelques espèces. Peut-être l'espèce qui est la plus évoquée aujourd'hui, et qui est un insecte xylophage qui est assez répandu sur le territoire national maintenant, c'est le grand capricorne du chêne, le Cerambyx cerdo, qui est un agent qui vit longtemps à l'intérieur des tissus de l'arbre et qui va sa présence va se repérer assez facilement par l'apparition de gros trous de sortie sur les écorces, par l'apparition de zones de décollement d'écorce qui laissent entrevoir des réseaux de galeries importants, mais également par des épanchements de silures qui vont se retrouver au pied des arbres. Ce grand capricorne est un insecte qui vit de longues années à l'intérieur des tissus, puisque son cycle s'étale sur 4 à 5 années en fonction des régions. Et l'insecte, vous voyez, est capable de creuser un réseau de galeries extrêmement important à l'intérieur des troncs des arbres. Et pour les arbres qui sont affaiblis dans leur globalité, dans toute leur partie aérienne, eh bien, ces attaques se concentrent généralement dans la base des troncs et dans la partie inférieure des fûts. Ces insectes donc vivent 4 ans à l'intérieur des troncs des arbres, et la nymphose survient à l'intérieur des tissus de l'arbre, et vous connaissez probablement tous cet insecte adulte qui est un très bel insecte, de grande dimension du moins, qui fait partie des plus gros insectes que l'on ait en France. Cet insecte qui normalement, d'après les inventaires fort incomplets qui sont réalisés, eh bien, est un insecte plutôt sudiste, mais dans la réalité il est aujourd'hui assez bien implanté sur l'ensemble du territoire, même si c'est sûr que c'est vraiment dans la région sud qu'il est plus présent. C'est un insecte qui fait l'objet d'un classement intégral et total sur l'ensemble du territoire, ce qui fait que les individus de cette espèce ne doivent pas être détruits, bien entendu, et ni les arbres qui les hébergent. Alors ce classement peut paraître un petit peu surprenant, surtout quand on vient du sud-ouest, où cet insecte est extrêmement présent, mais il est vrai que c'est une vision globale qui a, à l'échelle européenne, qui a abouti à ce classement, mais c'est vrai qu'un entomologiste du sud-ouest n'aurait sûrement jamais pris cette décision, n'aurait jamais fait cette proposition. Parmi les insectes parmi les insectes que l'on peut classer parmi les facteurs aggravants, dans les facteurs aggravants, eh bien, il y a aussi des buprestes, quelques espèces de buprestes, qui peuvent s'intéresser à des arbres en état d'affaiblissement. Et les buprestidés sont des insectes qui sont aptes à creuser un réseau de galeries dans la zone sous-corticale. Donc c'est vrai que lorsque les buprestes sont en place, la mort est très très proche. Alors qu'avec le capricorne, on a généralement un petit peu plus de délai. C'est une mortalité qui va prendre encore quelques décennies. Alors qu'avec les buprestes, lorsqu'ils ont creusé leur réseau dans la zone sous-corticale, qui est la zone de conduction des flux de sève, eh bien le dépérissement est là très très proche. Vous voyez ici une galerie qui est creusée dans un bois dépérissant. Et on repère généralement la présence de ces agrilles dans la zone sous-corticale par des petits épanchements d'exudats noirs, parfois un petit peu goudronneux, qui apparaissent et qui correspondent à des substances de défense émises par l'arbre et qui vont apparaître à proximité des zones de forage des galeries par les insectes. Et puis du côté des champignons opportunistes, il y a bien entendu un grand classique des opportunistes qui est l'armillaire couleur de miel, Armillaria melea, que l'on voit ici se développer au pied d'un chêne multicentenaire, ou du moins dont on voit les fructifications se développer au pied de ce chêne. Le rôle des armillaires est extrêmement complexe et parfois controversé sur le chêne, mais c'est le cas également sur de très nombreuses essences. On considère notamment qu'Armillaria melea, celle qui est visualisée ici, eh bien est une armillaire qui pourrait même avoir un rôle en parasite primaire. Donc ce n'est pas uniquement avec cet armillaire un rôle en parasite secondaire, donc en facteur aggravant. Celle-ci peut même être une armillaire tueuse d'arbres. Elle peut être tueuse d'arbres en développant ses palmettes mycéliennes sous les écorces des systèmes racinaires et remontant ces palmettes mycéliennes remontent dans la base des troncs. L'armillaire est connu pour être tueuse d'arbres, l'armillaire est connu pour être un des agents du dépérissement sur le chêne, mais l'armillaire est aussi connu comme être un agent destructeur et décomposeur du bois racinaire. Donc à ce titre, eh bien, l'armillaire peut fragiliser les arbres dans leur, lorsque leur système est endommagé, et donc les favoriser à la rupture, comme ici sur ce chêne pédonculé. Autre facteur secondaire, autre agent biotique parmi les champignons qui peut être considéré comme un parasite de faiblesse, c'est un agent biotique qui est peu présent, mais que l'on va rencontrer sur certaines espèces de chênes, notamment sur les chênes rouges, mais aussi sur le chêne liège. C'est un champignon que l'on appelle Hypoxylum mediterraneum, qui est un champignon qui génère une maladie bien connue sur le chêne liège, qui est la maladie du charbon de la mer, hein, qui est un champignon qui va profiter d'un état d'affaiblissement de l'arbre et de blessures présentes sur les troncs des chênes lièges pour prendre place. Ici, par contre, ces croûtes carbonacées que l'on voit ici, typiques de cet hypoxylon, ces croûtes carbonacées ont été observées sur des chênes rouges en état de dépérissement, chênes rouges qui étaient très très mal en station, hein, qui se trouvaient dans des terres extrêmement sèches et avec des conditions climatiques où l'hygrométrie était très très largement insuffisante pour cette espèce. Alors on évoque beaucoup ces facteurs aggravants. Malheureusement, quand on constate leur présence sur les arbres, eh bien, il est trop tard et les arbres vont basculer petit à petit dans un état de dépérissement irréversible. Mais si on a la chance d'intervenir auprès de concepteurs, d'aménageurs, de gestionnaires, de chaînes d'ornement, de bois d'ornement, eh bien, si on a la chance d'intervenir en amont, eh bien, il faut impérativement tout mettre en œuvre pour que ces arbres soient protégés avant qu'ils ne soient trop affaiblis, donc avant qu'ils soient colonisés par des agents secondaires. Et cette protection va pouvoir passer par la mise en défense, ça c'est essentiel, on clôture, on barrière, on interdit l'accès. Ne pas oublier qu'il n'y a pas que le poids des engins de travaux, mais il y a aussi la force fréquentation par l'homme, le piétinement peut malheureusement suffire à endommager très très fortement un chêne adulte. Donc vous avez ici une illustration d'une photo prise dans un parc qui a fait l'objet d'un réaménagement récemment, qui est le parc Bordelais, un parc bulaire de la deuxième moitié du 19e siècle, donc dans le sud-ouest. Et bien c'est un parc qui a été très très anthropisé, qui a fait l'objet d'une intensification culturelle avec l'arrivée des arrosages automatiques, des fertilisations de gazon, des désherbages, etc. Et c'est un parc qui aujourd'hui est en pleine restauration. Et justement, dans ce parc ont été définies des zones où les chênes devront être impérativement respectées. Hein, donc on a interdit les accès, on a un retour à un état originel des sols qui va permettre, on l'espère du moins, d'éviter que les arbres basculent dans des dépérissements irréversibles, même si certains sujets, comme on les voit ici, sont déjà largement condamnés. Et puis une autre méthode qui est très utilisée aujourd'hui pour essayer de contrer un état de stress sur des vieux chênes, voire essayer de restaurer, d'encourager la restauration de la cime sur un chêne, eh bien, c'est essayer de travailler sur les sols et d'essayer de travailler sur l'enrichissement biologique des sols. Donc on n'est plus du tout dans des enrichissements avec des engrais, mais on est dans des enrichissements de la vie biologique. Essayer de retrouver les équilibres biologiques, essayer de relancer la vie microbienne des sols pour que l'arbre se trouve mieux dans son sol, pour que l'arbre arrive à retrouver toutes ses associations bénéfiques sur son système racinaire. Donc ici, vous avez les techniques dites de mulching ou de paillage. On parle aujourd'hui un peu trop rapidement parce que c'est à la mode de BRF, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Hein. On est ici uniquement dans des techniques de paillage, mais qui sont des techniques extrêmement, extrêmement intéressantes pour les soins à apporter à ces vieux arbres. Et puis dans les opportunistes, il y a les champignons lignivores. Opportunistes, les champignons lignivores, dans le sens où ils vont s'installer sur des plaies, sur des sections de racines, sur des branches qui ont été élaguées, ou sur des blessures accidentelles suite à des impacts de foudre ou débris de branches. Ces champignons lignivores, ils sont nombreux et variés sur les chênes. Je vous ai fait une petite sélection des plus fréquents que l'on trouve du nord au sud de notre territoire. peut-être le plus nordiste de tous, c'est le félin robuste, que l'on trouve plutôt dans la région, dans le centre de la France, dans l'est et dans le nord, qui est le félin robuste. Ce champignon est un champignon opportuniste qui va, bien entendu, profiter d'une plaie, d'une blessure, pour rentrer à l'intérieur des troncs ou des charpentières d'arbres, et qui va développer ses consoles assez caractéristiques, des consoles coriaces, avec cet hyménophore finement poré qui a une consistance ocracée et feutrée, qui est typique chez ce champignon-là. Ce champignon-là que vous retrouvez ici, juste au-dessus d'un trou d'oiseau cavernicole, eh bien, ce champignon a la particularité sur le chêne de générer un symptôme assez particulier que l'on visualise très bien sur cette illustration-là, qui est un symptôme de chancre. Vous voyez les cales de cicatrisation qui se retrouvent assez éloignées. Eh bien, toute la partie centrale est une partie morte, mais cette mortalité est liée au développement du champignon, qui non seulement dégrade les tissus profonds, mais qui en plus se permet d'endommager quelque peu les cales de recouvrement qui se trouvaient autour de la plaie initiale. Fort heureusement, ce champignon est un piètre agent de dégradation et il n'occasionne généralement que des altérations internes de petite dimension. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un autre agent minivore, qui est le polypore soufré, qui est un grand classique des chênes, qui lui va développer des consoles volumineuses et vivement colorées en période automnale sur les troncs des arbres et qui provoque une pourriture intense, une pourriture rouge cubique intense à l'intérieur des tissus lignes. Un autre classique des chênes, c'est la fistuline hépatique. C'est même un champignon lignivore qui est inféodé à ce genre, au genre Quercus, dont on voit les fructifications annuelles ici de couleur rosâtre, rougeâtre. Et c'est un champignon qui, en fait, n'endommage qu'assez peu les tissus internes lui aussi, un petit peu comme le félin robuste que nous avons cité précédemment. Il n'en est pas de même, maintenant, de champignons qui, eux, vont se développer sur le système racinaire du chêne. Le système racinaire du chêne est donc là qui vont être capables d'altérer l'ancrage mécanique des arbres. Un champignon qui est assez commun du nord au sud, que l'on appelle le polypore géant, Meripilus giganteus, supporte bien son nom parce qu'il développe des fructifications extrêmement généreuses et abondantes au pied des arbres. Ici, vous le voyez au pied d'un chêne vert, ce qui n'est pas très très fréquent, un chêne vert qui se trouvait dans des conditions assez humides. Ce champignon lignivore, ce polypore géant, avait sur cet arbre généré une pourriture racinaire très importante qui a abouti à la rupture, au basculement de cet arbre fort imposant. Et puis il y a le polypore du chêne, qui est aussi un spécifique de cette essence, Inotus riadeus, qui forme de magnifiques galettes au pied des arbres à la période estivale et automnale. Ce champignon se reconnaît par sa capacité assez remarquable à développer, à exuder des liquides ambrés colorés au niveau de la marge du sporophore, qui nous permet généralement de ne pas hésiter lors de l'identification de ce champignon. Ce champignon-là, l'Inonotus riadeus, comme celui que nous avons vu précédemment, le polypore géant, sont deux espèces de lignivores qui ont la particularité de s'installer sur les systèmes racinaires des arbres, de dégrader les systèmes racinaires des arbres, mais de ne pas remonter ou de très peu remonter dans la base des troncs. Donc ce sont des altérations basales qui sont en règle générale très difficiles à détecter, sauf bien entendu lorsque des fructifications apparaissent au pied des chênes. Et enfin, un dernier grand classique les feuillus cette fois-ci, ce sont les ganodermes qui forment des croûtes largement étalées au pied des arbres. Nous avons plusieurs espèces, il y avait le ganoderme européen précédemment, et puis ici sur du chêne rouge, vous voyez le ganoderme à croûte résineuse qui porte bien son nom lui aussi en raison de cet aspect résinoïde du carpophore, ou du moins de la face supérieure du carpophore. Et voilà des ruptures à ganoderme à croûte résineuse hein, sur du chêne rouge, encore une fois. Et puis nous allons maintenant nous intéresser aux facteurs biotiques, après avoir vu quelques exemples de facteurs biotiques opportunistes. Maintenant nous allons nous intéresser à quelques facteurs biotiques primaires. Ils sont très très nombreux, mais parmi eux, très peu sont dommageables aux arbres. Tout d'abord un petit acarien, le phytope du chêne vert, hein, qui se repère très très facilement en raison de l'apparition de ces petites zones feutrées, légèrement rosées à orangées, qui sont visibles ponctuellement au revers des feuilles. Et bien, c'est l'œuvre d'un petit acarien, absolument pas dommageable. Sur les feuilles, nous avons une multitude d'agents cécidogènes. Le chêne peut héberger pas moins de 250 espèces cécidogènes différentes sur son feuillage, ses rameaux, ses bourgeons. Et vous avez ici deux espèces qui cohabitent sur les feuilles de ce chêne, deux espèces de synips, hein, qui sont génératrices l'une de ces petites galles en boutons de guêtre et l'autre de ces petites galles en forme de lentilles. On a également la célèbre noix du chêne que l'on trouve sur les jeunes pousses, qui est ici une galle de bourgeon. Très très commun ces agents cécidogènes, mais absolument pas dommageables pour les arbres. Depuis quelques années, on reparle d'un insecte piqueur-suceur dont le nom fait frémir beaucoup de gens, puisqu'il s'appelle Phylloxera. Phylloxera, c'est une famille d'insectes très proche des pucerons. Ce sont des insectes piqueurs-suceurs qui vivent au revers des feuilles. Et ici, il s'agit bien du Phylloxera du chêne, qui n'a pas grand-chose à voir avec le Phylloxera de la vigne, qui anéantit le vignoble européen dans la deuxième moitié du 19e siècle. Le Phylloxera du chêne, eh bien, est un petit insecte qui vit au revers des feuilles, vous voyez, qui ponctionne, qui fait les prélèvements de sucs cellulaires à partir de la face inférieure et qui va générer des spots de décoloration, comme nous avons pu le voir sur la photo précédente. Ces spots de décoloration ne sont généralement pas dommageables sur le chêne pédonculé, le chêne à glands sessiles, ni sur le pubescent, mais par contre, ces spots de décoloration peuvent dégénérer en symptômes nécrotiques sur le chêne vert. Donc sur le chêne vert, il est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir un impact esthétique un petit peu plus marqué que ce que l'on a sur les autres espèces. Et en cas de très fortes attaques, on peut assister à une chute de feuilles assez spectaculaire sur le chêne vert. Autre insecte piqueur-suceur que l'on rencontre sur le chêne, et tout particulièrement sur le chêne kermès et le chêne vert, c'est le kermès des teinturiers, hein, qui est une cochenille. Une cochenille qui, normalement, dans les milieux naturels, n'est pas du tout problématique, n'est pas du tout dommageable, et qui est une cochenille qui faisait l'objet d'une récolte. Autrefois, on faisait de la teinture avec cet insecte. Eh bien, cette cochenille qui, normalement, dans les milieux naturels, n'occasionne que très très peu de dommages aux arbres, eh bien, dans certains cas très particuliers, et notamment, vous le voyez ici, sur une plantation de chêne vert en région parisienne, dans un milieu extrêmement anthropisé, peut dégénérer, hein, cette cochenille peut avoir un développement complètement excessif et débordant, et peut aller jusqu'à provoquer des dommages considérables, et peut aller jusqu'à endommager très très fortement les arbres, et à les faire basculer dans des états de dépérissement très très prononcés. Alors quelles peuvent en être les explications ? Il y en a plusieurs, mais je pense que l'explication principale, c'est que ces arbres-là se trouvent dans des milieux extrêmement anthropisés, où la biodiversité est extrêmement limitée. Ce sont des parcs qui sont fermés, qui ne sont plus en connexion, qui ne sont pas en connexion avec d'autres milieux naturels. Et donc, le développement excessif de cette cochenille, que l'on voit ici se développer sur les rameaux de ces chênes verts, eh bien, il est tout simplement à la faiblesse des agents régulateurs. Donc, effectivement, on peut, nous aussi, générer par nos, euh, nos plantations parfois trop déconnectées, des milieux naturels. On peut générer aussi en changeant brutalement les arbres de leur aire géographique d'origine. Eh bien, on peut peut-être générer des situations où des agents biotiques normalement peu agressifs eh bien, deviennent très épidémiques et ne peuvent plus être régulés ou parviennent difficilement à être régulés. On parle beaucoup, quand on parle de développement important d'insectes, on parle beaucoup des chenilles défoliatrices, hein, vous l'évoquiez en pépinière. Oui, parfois nous avons des populations excessives de chenilles défoliatrices, mais ça reste en règle générale des choses qui sont très ponctuelles, hein, dont il faut se méfier pour diverses raisons, et notamment il faut s'en méfier parce que ça peut être un facteur déclenchant, de plus, qui pourrait faire basculer l'arbre dans un état de dépérissement, mais on va bien souvent s'en méfier pour des raisons d'allergie. Allergie vis-à-vis de l'homme, c'est le cas d'une des chenilles défoliatrices sur le chêne, qui est la chenille processionnaire du chêne, qui a des propriétés allergisantes et urticantes extrêmement importantes sur les mammifères. Et puis pour finir, parmi ces biotiques primaires, je voulais évoquer le développement d'un insecte qui s'appelle le buprès du chêne. Mais en fait, autrefois, quand on lit les ouvrages anciens d'entomologie, notamment les ouvrages de Balachowski, c'était un insecte qui était qualifié le buprès méditerranéen du chêne vert. Il a perdu son appellation méditerranéen et chêne vert. Maintenant, c'est vrai que cet insecte, on le retrouve un petit peu partout en France. On le retrouve en Suisse, on le retrouve dans des régions même très nordiques. Donc on a l'impression que cet insecte est sorti de son aire d'origine. Alors est-ce qu'il suit le chêne vert, parce que le chêne vert aussi est sorti de son aire d'origine, ou est-ce qu'il se trouve un petit peu mieux aujourd'hui dans les régions nord en raison de certaines modifications climatiques que l'on peut constater depuis quelques années. Cet insecte xylophage est un insecte qui va générer des dessèchements de branches qui sont généralement relativement discrets dans les arbres, mais parfois qui peuvent déstructurer assez fortement la charpente d'un jeune arbre. Et sur un arbre au pied bien installé, eh bien, ça peut provoquer une perturbation architecturale. Voilà la raison de ce dessèchement. C'est un insecte qui a ce curieux comportement de former une galerie annulaire au cours de son cycle de développement à l'intérieur de la branche, et cette galerie instantanément empêche le passage des flux de sève et génère le dessèchement de la partie distale. Et puis chez les biotiques primaires, nous avons quelques maladies parasitaires, quelques champignons qui s'installent sur les feuilles. On a beaucoup parlé de l'oïdium lors des exposés précédents. Oui, c'est un grand classique, l'oïdium, qui est un champignon exogène introduit au début du XXe siècle en Europe. Cet oïdium a la particularité, normalement, de ne pas faire trop de dégâts parce que les feuilles sont très très vite résistantes à l'oïdium. On considère qu'en 2 à 3 semaines, après sa sortie, eh bien, la feuille est devenue résistante. Le mycélium de l'oïdium ne parvient plus à pénétrer dans les tissus. Ce qui fait que bien souvent sur les chênes, vous remarquerez que c'est juste la pousse de la Saint-Jean, donc la deuxième pousse, qui va être impactée. La première pousse printanière est indemne, comme la pousse estivale ou la pousse automnale qui, elle également, va être épargnée par ce champignon. Et puis, dernier petit paragraphe de cet exposé consacré aux maladies émergentes. Et parmi les maladies émergentes, on évoque beaucoup en ce moment l'émergence du Phytophthora. Phytophthora, qui est un terme évoqué depuis les années 70, on a beaucoup parlé des Phytophthora en pépinière, sur les arbustes, et on a beaucoup incriminé la culture en conteneur comme facteur ayant permis l'émergence et le développement de ces champignons. Et bien maintenant, on se rend compte que les Phytophthora sont effectivement extrêmement présent dans les milieux naturels, et une grande étude conduite à la fin des années 90 et début des années 2000 sur les chênaies européennes a permis d'identifier non pas une seule espèce mais plusieurs espèces de Phytophthora sur les chênes. Et vous voyez ici les différentes espèces qui ont été identifiées. Certaines nous sont bien connues, hein, le Phytophthora cinnamomi, que l'on connaît de longue date. Et vous voyez que sa répartition est plus sudiste. C'est un champignon qui affectionne les températures élevées, mais surtout qu'il y a de grosses difficultés pour se conserver en hiver dans les régions où les températures sont trop fraîches. Ce qui fait que c'est un champignon qui est beaucoup plus développé dans le sud de la France, et plus particulièrement dans le sud-ouest de la France. Un autre Phytophthora, qui est un Phytophthora qui a été découvert récemment, ou qui a été identifié récemment, hein, qui est Phytophthora quercina, et qui se trouve être le Phytophthora le plus courant sur le chêne. Dans cette étude faite à l'échelle européenne, eh bien, pas moins de 53% des sites étudiés étaient porteurs de ce Phytophthora. Donc ce Phytophthora est un Phytophthora spécifique du chêne, mais c'est un Phytophthora qui est extrêmement fréquent. Alors quelles sont ses conséquences sur les chênes? Eh bien, il semblerait que le chêne ait évolué depuis longtemps avec cette espèce de Phytophthora, et que ce Phytophthora endommage le système racinaire, mais se contente d'endommager le fin chevelu. Et les arbres parviennent en fait, quand ils sont bien en station, parviennent en fait à parfaitement bien reconstituer le stock de racines fines qui a pu être endommagé par le Phytophthora quercina. Donc les conséquences directes de ce Phytophthora sur l'état de santé de nos chênes actuellement en Europe, eh bien, ne semble pas avoir établi de situation dommageable pour les peuplements avec la présence de ce Phytophthora quercina. Et vous savez, on est souvent dans des logiques d'équilibre, donc qu'en est-il dans les endroits où les chênes sont un petit peu moins bien en station? Si en plus de cela les chênes subissent des agressions d'origine anthropique, eh bien peut-être que ce Phytophthora pourrait avoir des conséquences ou des effets plus dommageables sur l'état de santé des arbres. Cette étude est très très intéressante et je vous engage vivement à vous rapprocher des comptes rendus du DSF pour avoir plus d'informations sur cette étude. Moi je vais vous parler du développement de la maladie de l'encre, donc qui est le Phytophthora cinnamomi, qui est une maladie connue de longue date, en Europe. Et c'est une maladie qui génère des écoulements noirs, goudronneux, à la base des troncs, et c'est une maladie qui se développe sur le chêne rouge, elle est bien décrite sur le chêne rouge, mais c'est une maladie qui n'est pas mortelle pour cette essence. Alors que cette maladie est mortelle pour le châtaignier, la maladie de l'encre sur le châtaignier est catastrophique, alors que c'est une maladie qui est mortelle également pour le chêne vert, alors que c'est une maladie qui est mortelle également pour le chêne liège, eh bien elle n'est pas mortelle pour le chêne rouge ni pour les chênes blancs que l'on trouve en Europe. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Eh bien, c'est un champignon qui s'attaque au tissu du tronc et de la base du tronc. C'est un champignon qui provoque des nécroses sous-corticales, donc des nécroses cambiales. Mais on voit bien sur ces schémas eh bien, que l'arbre est capable de cicatriser assez rapidement et de recouvrir les infections. Donc en fait, ça provoque des perturbations relativement mineures à l'intérieur des tissus de l'arbre. Ça provoque probablement de grosses perturbations au niveau de la qualité du bois, j'imagine. Et par contre, ce sont des symptômes qui sont assez faciles à visualiser à l'extérieur. On voit des écorces très perturbées, ici sur un chêne pédonculé, ici sur un chêne chevelu. On voit des écorces très perturbées, signe de cette cicatrisation intense dans la base des troncs. Et ces cicatrisations très perturbées sont associées à des écoulements noirâtres qui nous permettent de bien identifier cette maladie. Le Phytophthora cinnamomi est une maladie que l'on considère comme émergente en raison de ses risques de son risque de dissémination et d'extension sur le territoire national. Vous avez ici une projection qui a été faite aux années 2068-2098, donc fin de notre siècle, à partir des modèles climatiques à notre disposition, et qui nous montre bien que l'aire de répartition du Phytophthora cinnamomi, en raison de ces modifications climatiques, eh bien pourrait être beaucoup plus importante que ce que nous avons aujourd'hui. Et puis il y a les maladies que l'on n'a pas encore, mais les maladies qui pourraient venir, qui sont sur le point de venir, et là qui sont des maladies absolument terribles. C'est pour ça que j'écoutais avec attention ce matin les dans le premier exposé, les importations de glands, les échanges de pousses ou de fragments végétaux. Et bien, je crois qu'il faut être extrêmement prudent parce que aux quatre coins du monde, nous avons des pathologies qui sont extrêmement graves sur le chêne et qui pourraient être catastrophiques si elles étaient importées chez nous. Alors, quelles sont ces maladies? Très très rapidement, on parle de la mort brutale des chênes, sudden oak disease, death, qui est occasionnée par un phytophthora, qui est le phytophthora ramorum, et qui provoque des mortalités complètes d'arbres dans des délais extrêmement courts, comme vous avez ici sur cette photo aérienne. C'est ici un phytophthora de partie aérienne, c'est pas un phytophthora racinaire, c'est un phytophthora de partie aérienne, et qui est un phytophthora extrêmement problématique parce qu'il est disséminé par le vent. C'est un phytophthora qui a été trouvé au milieu des années 90 en Californie, mais qui se répand comme une traînée de poudre aujourd'hui et qui provoque des grandes nécroses sous-corticales et des mortalités très, très rapides. Ce phytophthora, le phytophthora ramorum, a été identifié en France depuis les années 2000 et de façon très importante puisqu'on considère aujourd'hui que pas moins de 30% de nos pépinières et de nos points de vente en jardinerie sont infectés par phytophthora ramorum. Mais pour l'instant, ce phytophthora ramorum qui est présent en Europe ne s'installe que sur des plantes arbustives dans lesquelles on va trouver des viburnums et surtout des rhododendrons. Et donc on est très inquiet quand des rhododendrons en sous-bois sont fortement affectés par le phytophthora ramorum. Et cette forte présence d'inoculum pourrait amener ce phytophthora à prendre place sur les arbres qui se trouvent à proximité immédiate. Deuxième pathologie redoutable, c'est ici le flétrissement américain du chêne, qui est une maladie similaire à la maladie qui a décimé les ormes en France. C'est le Ticeratocystis fragacearum. On voit bien ici, ce sont des infections qui surviennent dans les cernes de circulation de la sève brute, donc dans le xylème, et qui provoquent une mort subite des flétrissements et une mort subite des arbres. Alors la grande question, c'est une maladie présente sur le continent nord-américain, qui sévit durement sur le continent nord-américain, qui sévit durement sur le chêne rouge, mais peu sur les chênes blancs américains. Donc la grande question était de savoir si nos chênes blancs européens, donc sessiles, pubescents et pédonculés, étaient sensibles. Et des tests ont été faits à la fin des années 90 et ont montré l'hypersensibilité de nos chênes blancs, leur hypersensibilité à cette infection parasitaire. Donc il faut impérativement que ce champignon n'arrive pas à rentrer sur le territoire européen. C'est une priorité absolue, en sachant que de surcroît chez nous, nous disposons des vecteurs animaux, donc nous disposons de scolytes qui seraient capables de se charger de la transmission de ce champignon. C'est la raison pour laquelle toute importation de grumes de bois de chêne d'origine américaine fait l'objet d'une surveillance très attentive et dans tous les ports susceptibles d'accueillir des grumes de bois de chêne, il y a une surveillance très soutenue de ces grumes pour s'assurer qu'elles ne soient pas porteuses de ces maladies parasitaires. Et puis on parle beaucoup aujourd'hui de l'arrivée des capricornes asiatiques, dont une des espèces, qui est le chinensis, dont une des espèces s'intéresse tout particulièrement au chêne et pourrait être catastrophique si elle prend place de façon importante chez nous. C'est un insecte qui a été introduit par l'intermédiaire du commerce des bonsaïs et qui fait des dommages, le chinensis, très très important dans la partie basse des troncs et sur les systèmes racinaires affleurants. Donc ça serait catastrophique. Et puis on attend, c'est peut-être qu'une question d'année, on attend l'arrivée imminente du tigre du chêne. On connaît tous le tigre du platane, mais le tigre du chêne est assez proche, vous voyez, de par sa forme d'une part, mais aussi de par les symptômes qu'il occasionne sur le feuillage. Nos chênes blancs, ils sont sensibles. Et d'ailleurs, ça s'est très bien vu puisque cet insecte a été trouvé en Italie en 2000. Il est maintenant dans le sud de la Suisse, donc dans la province du Tessin. Il est présent depuis 2003 en Turquie, En une année, pas moins de 16 000 hectares ont été colonisés par cet insecte de 2003-2004. Hein, donc c'est probablement un insecte qui est à nos portes, à nos frontières, et que l'on va voir arriver très très prochainement et avec lequel il faudra composer. Mais bien entendu, c'est un insecte modérément dommageable puisqu'il ne s'attaque qu'aux feuilles. Mais bien entendu, c'est un insecte qui, sous l'effet de ses piqûres, peut créer des déficits photosynthétiques et donc peut-être faire partie de ces spirales du déclin, donc de ces facteurs prédisposants que l'on peut constater dans le dépérissement des champs. Voilà, je m'arrête là, mais on pourrait encore.